Bienvenue dans notre analyse du jour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept, la curation de contenu. Ça sonne peut-être un peu technique, un peu marketing.
Oui, un peu jargon.
Exactement. Mais en réalité, on va voir que ça touche au cœur de notre relation avec l'information. Et pour explorer ça, on s'appuie sur un super article du blog théologique.ch.
Oui, un article qui décortique vraiment très bien le sujet. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'il ne commence pas par une grande théorie abstraite, tu vois ?
Non, c'est très concret.
Ça part d'une anecdote.
Très personnelle en plus. L'auteur raconte la surprise qu'il a eue en voyant son blog mentionné dans la lettre de nouvelles de Robin Massure.
Du CIDOC, c'est ça.
Le Centre pour l'information et la documentation chrétienne.
C'est ça.
Ah oui, et donc ce n'est pas juste un shoot-out, comme on dirait, une petite tape dans le dos.
Non, pas du tout.
L'auteur utilise cet exemple précis pour montrer ce qu'est la curation en action. C'est le résultat d'un vrai travail. Quelqu'un a cherché, a lu, a jugé ça pertinent et a décidé de le partager.
De manière réfléchie, oui. C'est ça qui est important. Le geste de Robin Massure, il n'est pas anodin. C'est vraiment le point final de tout un processus. Il y a de la veille, une sélection, un commentaire et puis enfin la diffusion. Cet exemple, il ancre tout de suite le concept dans quelque chose de très humain, de très intentionnel.
Bon, alors, partons de là. Si on veut aller au-delà de l'exemple, comment on définit ça, la curation de contenu ? C'est quoi la version un peu officielle ?
Alors, l'article, il se réfère à la définition de Wikipédia, ce qui est une bonne base. Et déjà, l'étymologie, c'est un indice énorme.
Oui.
Ça vient du latin « curé », qui veut dire « prendre soin », mais dans le soin.
D'accord.
Donc la pratique, concrètement, c'est de sélectionner, éditer et puis partager le contenu le plus pertinent sur un sujet donné. L'objectif, c'est de donner plus de visibilité, plus de lisibilité à des infos qui sinon seraient peut-être noyées dans la masse.
Et l'exemple du CIDOC montre bien ce que ce soin implique. Ce n'est pas juste une liste de liens balancés comme ça, dans un mail.
Ah non, loin de là. L'article y précise bien que Robin Massure publie chaque vendredi une sélection. Commenter.
Le commentaire, c'est ça la clé.
C'est la première couche de valeur ajoutée. Il ne dit pas seulement « lisez ça », il dit « lisez ça » et voilà pourquoi c'est important. Et après, il y a le dispositif de diffusion.
La newsletter, le site.
La newsletter, un site web, les réseaux sociaux et même un PDF. C'est un écosystème complet pour s'assurer que l'information soignée arrive bien à destination. C'est un processus structuré.
Ok, donc on a le quoi, c'est assez clair, mais le pourquoi, c'est peut-être encore plus puissant. Pourquoi ce besoin de prendre soin de l'info est devenu si vital ?
C'est la question centrale, oui. Et pour y répondre, l'article nous emmène vers une autre source, un article de Joan Westenberg.
Avec un titre incroyablement fort.
Ah oui.
Curation is the last best hope of intelligent discourse. Attends, la curation est le dernier meilleur espoir d'un discours intelligent. C'est presque apocalyptique pour un sujet qui parle de partager des liens.
Ah mais oui.
On sent qu'il y a un enjeu énorme derrière là.
Le titre est volontairement dramatique, c'est sûr, mais il a le mérite de capter l'attention. Et il y a un détail savoureux que relève l'auteur de notre source.
Lequel ?
La page originale de cet article n'existe plus. Il a dû la retrouver grâce à la Wayback Machine, l'archive du web.
Ah, c'est une mise en abîme parfaite, ça. On parle de l'importance de préserver le sens de l'information. Grâce à un outil qui préserve l'information elle-même de la disparition, la sainte patronne des arguments en ligne, l'outil qui a sauvé 1 million de jeux turcs, s'il existait.
C'est exactement ça. Ça montre bien que l'information, elle est fragile, à la fois dans son existence et dans son sens.
D'accord.
Pour en revenir au contenu de Westenberg, notre source, elle en retient 2 citations. Et ce sont de vrais coups de poing.
Je veux bien les entendre. La première dit... La curation humaine est aujourd'hui plus critique que jamais. Le jugement avisé des curateurs humains est la seule défense contre le raz-de-marée de la désinformation et de la médiocrité. La seule défense. C'est puissant. Ce qui me frappe, c'est le mot « raz-de-marée ». On l'a tous ressenti, ça.
Ah oui.
Ouvrir n'importe quel réseau social, c'est se prendre une vague dans la figure. On ne sait plus où regarder. L'idée qu'un curateur soit une sorte de digue ou de phare dans cette tempête, ça me parle beaucoup.
Ce qui est fascinant, c'est que la menace identifiée, ce n'est pas l'algorithme ou l'IA en soi. C'est le volume et la médiocrité que ces outils peuvent amplifier.
D'accord.
La curation humaine, elle n'est pas présentée comme une ennemie de la technologie. C'est plutôt une couche de sens indispensable que la machine seule ne peut pas apporter. Ce fameux jugement avisé.
Et la deuxième citation, elle complète bien la première. Le rôle des curateurs humains n'est pas seulement de sélectionner, mais d'imprégner le paysage numérique d'un sentiment de fiabilité et d'authenticité que seule la perspicacité humaine peut fournir. Fiabilité et authenticité, on dirait les deux choses les plus difficiles à trouver sur Internet aujourd'hui.
C'est un peu ça, oui.
C'est le libraire du numérique. C'est une très, très bonne image. Le curateur engage sa réputation. En sélectionnant un contenu, il dit implicitement « J'ai passé du temps là-dessous pour vous et je pense que ceci est digne de votre temps, qui est précieux. » C'est un acte qui tisse un lien de confiance.
C'est pour ça que l'auteur de notre article, il conclut ce point en disant que la curation dit quelque chose de notre vision du monde. Ce n'est jamais un acte neutre.
Choisir, c'est toujours renoncer, et donc affirmer une priorité. C'est une signature.
D'accord, c'est beaucoup plus clair. Mais pour vraiment bien cerner l'idée, l'article propose de la comparer à deux faux amis.
L'agrégation et la compilation. Voilà. Je pense que cette distinction, elle est cruciale pour ne pas tout mélanger. Elle est fondamentale. On utilise souvent ces termes un peu n'importe comment. Alors, commençons par le plus simple, l'agrégation. D'accord ?
L'auteur, là encore, il donne un excellent exemple de sa propre expérience. Il y a une quinzaine d'années, il avait monté un site qui aspirait automatiquement tous les flux RSS des blogs protestants réformés. C'est ça l'agrégation.
Ça me fait penser à des services comme, je sais pas, Google News ou même le fil Explorer d'Instagram.
Oui, un peu.
C'est un robot qui va chercher tout ce qui correspond à des mots-clés ou à un profil et qui te met ça devant les yeux. C'est une machine à brasser du contenu, sans réelle intention éditoriale derrière. Voilà, c'est une consultation de sources souvent automatisée. L'avantage, ça peut être une forme d'exhaustivité. Mais le point capital, et l'article l'écrit en gras, l'agrégation ne hiérarchise pas et ne commente pas. C'est le flux brut.
C'est ça. C'est la matière première avant toute transformation. Au mieux, c'est la toute première étape d'un travail de curation.
Ok, donc l'agrégation, c'est le chalutier qui ramasse tout dans son filet, sans distinction. Et la compilation, alors, c'est quoi la différence ?
La compilation, c'est l'étape d'après. L'article prend l'exemple du site Regards Protestants. Là, il y a une intervention humaine.
Ah.
Des personnes choisissent les articles à mettre en avant. On n'est plus dans l'automatisation pure. Donc, il y a déjà un filtre qualitatif.
Donc, c'est déjà mieux. On a enlevé les vieilles bottes et les algues du filet pour ne garder que le poisson.
C'est ça. Mais le résultat, ça reste souvent un flux, une liste de contenus, présentée avec un simple titre et un extrait. La différence fondamentale, et c'est le deuxième point que l'article souligne en gras,
oui,
c'est que la compilation ne propose pas de réelle hiérarchisation ni de commentaires. Elle dit « voici une sélection de choses intéressantes », mais elle ne dit pas « voici la chose la plus importante de la semaine » et voilà pourquoi elle change tout.
D'accord. Je crois que j'ai une image pour fixer tout ça. L'agrégation, c'est le chalutier qui ramasse tous les poissons. La compilation, c'est le tri sur le pont du bateau pour ne garder que les espèces comestibles.
Voilà.
Et la curation, c'est le chef qui choisit les trois plus beaux poissons, les cuisine avec une recette incroyable et qui vient à ta table pour te raconter l'histoire de ce plat.
L'analogie est parfaite. La curation, c'est la recette et l'histoire qui vont avec. C'est la mise en contexte, le commentaire, la valeur ajoutée qui transforme l'information brute en connaissances digestes, savoureuses et nourrissantes.
Et cette distinction est tellement importante qu'elle amène l'auteur à nous raconter une sorte de crash test personnel. Une expérience où il a voulu faire de la curation, mais où il s'est retrouvé à faire autre chose.
Oui, c'est un passage très humble et très instructif. Il raconte qu'en 2025, il a tenté une expérience. Utiliser exclusivement l'outil Charlie pour partager ses trouvailles.
Charlie, d'accord.
C'est un outil de partage de liens très simple, très léger. Son intention de départ était claire. Il voulait faire de la curation. Et le verdict ?
Il dit qu'il s'est très vite senti dépassé.
Perdu dans le flux qu'il était lui-même en train de créer. Sa conclusion est très directe. J'espérais faire de la curation, je me perdais rapidement dans la compilation.
C'est fascinant. C'est comme si l'outil lui-même l'avait poussé vers la compilation malgré son intention de départ.
Oui, un peu.
C'est un peu l'idée que si ton seul outil est un marteau, tu as tendance à voir tous les problèmes comme des clous.
C'est exactement ça. Et il précise bien que ce n'est pas une critique de Charlie, hein.
Non, bien sûr. L'outil est excellent pour ce pourquoi il est conçu. De la compilation au fil de l'eau, un partage rapide et efficace. Mais son format, un flux continu de liens, n'était pas adapté à son objectif de curation, qui demande plus de recul, de regroupement, de rédaction. Pour ça, le format du blog, c'était finalement plus pertinent pour lui. Et c'est là qu'on boucle avec la citation de Westenberg. C'est comme si l'outil, sans le vouloir, l'encourageait à contribuer aux raz-de-marée d'informations.
Oui.
Qu'il voulait justement endiguer par un discours intelligent. L'intention ne suffit pas, l'outil compte énormément. C'est la leçon clé de cette expérience. La conclusion de l'auteur est pleine de sagesse. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de faire. L'important, c'est de savoir ce que l'on veut faire. La compilation n'a rien de honteux, dit-il. C'était simplement pas son projet. Le fameux pourquoi.
Le pourquoi. L'intention doit toujours primer sur le comment, l'outil. Ok, on a tout ce puzzle sur la table, l'acte de prendre soin, le rôle de rempart, la différence avec la compilation, l'échec de l'expérience pratique. Comment on assemble tout ça en une image claire? Qu'est-ce qu'on retient à la fin? Je dirais que le premier point, le plus fondamental, c'est ce changement de posture. La curation, ce n'est pas une compétence technique, c'est une éthique.
Une éthique.
L'éthique du soin, appliquée à l'information et, par extension, à son public.
Ensuite, il y a cette idée de rempart. Dans le chaos informationnel actuel, le curateur n'est pas juste un passeur de contenu, il devient un créateur de confiance. Il apporte cette fameuse fiabilité et cette authenticité dont parlait Westenberg.
Des denrées qui se font de plus en plus rares, oui. Le troisième point, c'est la clarté des définitions. Agréger, c'est collecter. Compiler, c'est sélectionner.
Et curer ?
Curer, c'est sélectionner, commenter, hiérarchiser et mettre en contexte. C'est cette dernière couche, cette valeur ajoutée humaine qui fait toute la différence.
Et le dernier point, qui irait d'expérience avec Charlie, est peut-être le plus universel.
Oui.
C'est l'idée maîtresse qui conclut l'article. Connaître son pourquoi est plus important que de choisir son comment. L'intention doit guider l'outil et non l'inverse. Savoir si on veut construire un mur de briques ou une sculpture en bois, ben ça va déterminer si on a besoin d'une truelle ou d'un ciseau à bois. C'est une leçon qui s'applique bien au-delà de la gestion de liens. Et en fin de compte, ça nous renvoie à nous-mêmes. À l'ère de flux infinis, des recommandations algorithmiques qui nous conditionnent à une consommation passive, ça soulève une question. Quelle est notre propre intention quand on consomme et surtout quand on partage de l'information? Est-ce qu'on agit en simple agrégateur, en relayant presque machinalement, en compilateur? En faisant un tri rapide, ou est-ce qu'on pourrait, chacun à notre échelle, devenir de petits curateurs pour notre entourage, en appliquant ce filtre humain, de pertinence, de contexte, et finalement, de soin.